et mon espoir suspendu qui balançait comme le cœur. Dans l'ascenseur d'abord, devant sa porte ensuite. Et puis toujours l'œil noir derrière la porte. Sa voix, l'intonation qui disait qu'il était fatigué des fleurs, de les voir là, de voir toujours mes mains le matin avec l'aluminium et les tiges humides qui goûtaient par terre. Il disait que c'était fatigant, ce geste de mes mains retirant l'aluminium et posant sur la table de chevet les fleurs, avec précaution pour ne pas les casser en les posant. Il disait que c'était terrible. Il disait que c'était révoltant de me voir passer au pied de lui, devant lui, avec juste un sourire de gêne idiot, pour m'excuser d'aller dans la salle de bain alors que j'arrivais à peine, que je ne prenais pas même le temps de retirer mon manteau pour déjà prendre le vase, ce vase en verre. Il ne disait rien du vase, mais je voyais comment ses yeux suivaient mes mains qui prenaient le vase pour changer l'eau. Comment son regard sur mes mains écrasait les doigts pour qu'à le serrer plus fort, le verre se brise. Il aurait voulu le sang mêlé sur ma peau et sur le verre. Les débris goûtant par terre comme ça, avec les fleurs nues, couchées. Les tulipes déjà pourrissantes, d'attendre que je revienne avec un autre vase. Les mains pansées, le calme revenu. Il aurait voulu, je ne sais pas, avoir la force de se soulever et, d'un souffle, profitant de mon cri du sang et du verre mêlé, pouvoir se lever un peu et tendre le cou plus loin, plus haut. Avoir cette force de souffler d'abord sur le papier d'aluminium posé au bord de la table de chevet, en équilibre, seulement retenu par le poids de l'eau dans les pliures, dans les marques creusées par les tiges comme des petits canaux. Il aurait voulu avoir le souffle de faire basculer le papier pour entendre sa chute sur le lino. Un léger glissement. Rien. Rien pour nous, pour moi, pour qui ce n'est pas lutter que de faire un mouvement, se pencher. Pour qui ce n'est pas vaincre comme ça aurait été pour lui, par exemple. De voir juste son souffle faire céder un équilibre, faire tomber l'aluminium.
Qu'il était revenu, je me disais qu'il reviendrait de sa colère, qu'il réapprendrait à me voir. Je me disais qu'il s'adoucirait, lentement, doucement, au rythme de ses progrès. Je me disais tout ça parce que moi, je n'avais plus peur. Je ne craignais plus son regard de pierre sur mes yeux baissés et sur la salive que je renvoyais d'un coup au fond de la gorge. Je me disais, nous allons réapprendre, nous allons refaire les gestes de ceux qui apprennent, de ceux qui commencent. Nous allons faire ça, nous, à rebours, retourner vers le début parce que moi j'ai tant regardé les photos, tous ces après-midi, dans le salon, sur la table du salon, et je voyais bien d'une photo à l'autre, son bras serrant ma taille et nos corps tout près, quand nous avions 20 ans et un appartement si petit qu'on dirait qu'il tient tout entier sur la photo. Sa main tenant encore la mienne, 10 ans plus tard, à ces mariages qu'on oubliait sitôt qu'on en revenait. Et puis, petit à petit, nos corps se séparant dans les appartements grandissants, comme si nous disparaissions dedans, avalés par eux, exactement comme on dit, par la force des choses. Nous, sombrant dans le décor des photos. On reprendrait tout ça, dans l'autre sens, et je m'asseyais à côté de lui, sur son lit, laissant venir vers moi tout ce qu'il voudrait, le laissant parler, l'écoutant, reprenant une confiance que j'avais perdue et que je n'aurais jamais cru possible de vivre. Moi, pensant et disant pour moi-même, en me souriant d'avoir tant d'audace, nous. Et puis, on va s'en sortir.
On va s'en sortir. Et je serai douce. Oh oui, tellement. Il ne pourra pas ne pas voir que je suis douce. Il ne pourra pas ne pas voir ça, ne pas savoir. On ne parlera plus du reste. Le reste s'est effacé. Il n'est plus rien, un écho à peine. Rien qui puisse tenir comme avant, qui puisse empêcher qu'on lutte ensemble. Que ce soit ensemble qu'on rejette la violence, celle d'avant, celle de maintenant qui s'acharnait dans son corps. Et ce serait à nouveau nos moments à nous, quand on disait si jeune que rien ne nous faisait peur, qu'on voulait ne plus voir personne parce qu'on trouvait que tous devenaient ridicules à n'être pas dans notre histoire. Quand parler avec quelqu'un, c'était se taire pour ne pas parler encore de nous, de ce qu'on voulait, des enfants qu'on aurait, de la maison qu'on aurait, des projets qu'on faisait. Les rêves de nous voir tous les deux si vieux, rabougris dans des vieilles chaises tressées, mais ensemble, comme un lierre. On y croyait et on parlait de ça la nuit, en se caressant les cheveux, en se goûtant du bout des lèvres.
Et moi, je n'aurais plus à m'encombrer comme avant de cette idée qui me restait sur les bras, cette idée qu'il voulait partir, qu'il me détestait de ne pas pouvoir partir, comme si moi j'avais provoqué l'embardé, que j'avais cisaillé des fils, percé des conduits, des tuyaux, comme si j'avais sur sa route jeté les litres d'huile pour que la voiture sorte de la route, là, pour qu'elle dévie sur les hauts murs peints de couleurs délavées. Je n'aurais plus cette idée sur les bras, je ne l'avais plus déjà, l'idée que quand il avait dit qu'il partirait dans 15 jours, ça avait été une brèche qui s'était ouverte et où sur moi alors devait s'étendre tout ce qui était retenu depuis trop longtemps. Il n'y aurait plus cette idée qu'il n'avait pas le choix, que lui, il fallait bien qu'il essaie d'aimer ailleurs pour aimer ne serait-ce qu'un peu et qu'il respire une autre vie pour vivre. Comme si moi j'avais refusé qu'il soit heureux, comme si je lui avais interdit de vivre ou que j'aurais refusé s'il m'avait dit « Allez, déménageons, partons d'ici, je veux autre chose, de l'air, il faut de l'air, de la campagne ou de la ville plutôt que cette cité qui n'est même pas la ville mais où on vit tous les yeux rivés sur la vie du voisin tellement on s'entasse, tellement on s'emmerde et où on s'occupe à vivre comme tout le monde puisque tous on vit dans des maisons pareilles, cette cité qui n'est même pas la campagne et qui pue l'ennui autant, comme de crever à petit feu, petit coup. » Par petits coups, à coups de saison et à coups de cloche de la petite église où hop, on est tous passés, gamins, adultes, et où on repassera cadavres, en poudre, mais baptisés, mariés, pendus ou écrabouillés avant la fin de l'année, non, dans 10 ans, dans 50, peu importe, il n'y a qu'à attendre puisque la cloche sera toujours là pour taper son bourdon.
Et pourtant, en revenant, je pensais à ça sur mon vélo, à l'idée du courage qu'il lui fallait. Et je me disais que ça n'allait pas vraiment, ça, cette idée de courage. Comme il faut du courage pour ceci, pour cela, tous les 3 ou 4 matins. Comme on dit courage pour être sûr et certain qu'on y arrivera. Pour se donner le change, pour se convaincre. Avec cette idée que c'est au mérite. Le courage.
Alors, je sais pour l'avoir vu, ce qui fait relever des corps, ce qu'il faut de rage pour déplier un genou, tendre la nuque, pour faire tenir le bassin et les jambes, pour ne pas fléchir et continuer quand même quand tout le corps tremble à ne plus tenir. J'ai vu son visage à lui, où les contractions mêmes se tournaient sur elles-mêmes pour chercher des forces. Et puis son regard, noir encore, comment dire autrement que de répéter encore qu'il était noir son regard, avec ce retournement au-dedans et son feu, ses éclats, la profondeur que ça prend dans le blanc de l'œil, que ça prenait quand ses yeux s'ouvraient et qu'il semblait revenu du fond de sa tête, comme s'il cherchait de partout la force et que nous, de l'extérieur, on n'était bon qu'à s'empêtrer comme on faisait avec le médecin, nos deux corps ne sachant jamais comment faire vraiment pour savoir soutenir, retenir, ni avoir dans leurs membres la souplesse, comme cette élasticité qu'il aurait fallu pour faire plier sans que rien ne rompe jamais.
Un peu comme les nuits où je savais qu'il se réveillait 1 heure trop tôt, une heure avant que le réveil ne sonne. Je me souviens de ces heures à regarder dans la nuit, comment je regardais ses yeux ouverts sans qu'il me voie, lui, dans la nuit, croyant que moi je dormais, et alors je le regardais dans son silence, éveillé. Les yeux clignés, je voyais les reflets. Et c'était comme de lui voler des regards qu'il donnait aux choses auxquelles il pensait. Comme j'aurais voulu lui demander, toujours en surprenant dans son regard la sincérité d'une pensée tournée vers elle-même. De quoi elle était faite? De quels souvenirs? De quelles attentes? J'aurais dit, dis-moi où tu es. Juste espérer, juste tout donner, me jeter là-dedans dans cette idée de tout donner et de se dire, je finirai par oublier. Et peut-être qu'un jour je penserai comme les autres, que ce ne sont pas des histoires qu'on raconte aux autres. Ce ne sont que des histoires toutes bêtes. Des histoires d'amour, c'est tout. Et des gens qui partent de toute façon. Tout le monde connaît ça. Le monde est fait de gens qui partent.
J'étais saisie. Souvent, je me faisais saisir. Saisissez-vous de lui. Par l'idée que rien de ce qui fait l'humain si cher, l'amour, le souffle, n'était vraiment réel. Une idée irritante aussi. Non qu'elle m'horrifia, mais parce qu'elle laissait entrevoir salement ses conséquences. Un fastidieux dénouement. Oui. Il y aurait à se défaire d'une grande comédie où l'on avait tant peiné à tenir sa maigre part. Les efforts de chaque jour pour arrondir, pour gagner en souplesse, les projets, les doux projets d'amendement, de réforme, de premier pas. Le corps de demain. La ficelle ténue d'une Ariane aliénée. Je jouais, grinçant. C'était un vertige bas. Imaginez un mensonge de 10 000 ans, de toute éternité. L'amour, ce tout amour. Au cœur de l'art, de l'espérance, des grandes choses, du devenir et de la nostalgie. L'épreuve en était légion. Mais le plus grand trouble, amené avec une précision d'onaniste, je le gagnais en appelant, en feignant d'appeler, pour en être secouru. L'idée même de l'amour, que je défigurais, que je maquillais à mesure, contrefaisant le mensonge d'un homme aux abois sous le coup d'un flagrant délit. Sciemment, je rendais le discours que je me tenais si maladroit que c'était pitié. Une obstination navrante et contre tout bon sens. Délicieuse. Et des arguments pathétiques. Je finissais par dire, à haute voix dans ma chambre, mais si bien sûr que l'amour existe. Sans ça, hein, n'est-ce pas? Et la satisfaction, alors, me fermait les yeux. Cependant, plus j'y revenais, et plus j'abrégeais le plaidoyer cynique, la chose était jugée. Une vaste arnaque, depuis toujours, jour après jour et de génération en génération. Berné, on monte à son tour le cou au petit parce qu'on a peur, d'une peur innommable. On se paie de chansons et c'est bien suffisant. Hein? Et si c'était moi qui n'avais pas su? Pas su y faire, pas su trouver, pas su vivre tout ça. Peut-être qu'il y arrivera le gosse. L'amour, l'âme, la joie. Peut-être. Mais pas pour moi. Non. Fifre, soupir, lila, tiens. Mais la misère ne me touche pas. J'ai dit, mes amis ne me sont rien. Quels amis? Je n'ai jamais tenu à personne. Et mon cœur n'a battu que de peur. Toujours de peur. Ou de rut inassouvie. Dans la turgescence renouvelée de mon sexe rouge. Je suis le sanglier. Mon âme. Grand baguette de pisse, rabord, porté à bout de bras, et qu'il faut aller jeter loin, et où chaque pas fait des vagues, des débords, tout au long, infini, d'un couloir d'hôpital. Le sanglier dit, je te la donne, tu peux m'en débarrasser. Je te la donne à toi, qui est la somme des désirs de mort et d'avilissement.
Il y a cette femme en blanc, avec un paquet rouge dans les bras, un bébé emmailloté. La femme est vieille. Où est-ce qu'elle est maintenant ?
Ici. Ici ? Ici. Je suis ici et je ne parle à personne.
Tu étais à gauche de Katia ?
Alors, tu étais à droite de Katia et son père était à sa gauche. Soit, comme il convient.
Katia et son père approchent. La femme et le bébé aussi en retrait. Puis, un homme, moins âgé que le père, mais plus que Katia. On a vu un prêtre arriver avec une boîte. Le futur marié y a trempé l'index et du doigt a marqué le front de Katia d'un point rouge. Elle a baissé la tête en signe d'acquiescement, mais soudain on a senti qu'elle reculait. Son visage, comme celui de son père, le regard qui éclate, et tout le monde a vu comment quelque chose a refusé de plier, de rompre, comment elle s'est braquée.
Ses yeux, sa colère, son refus.
Ma fille.
Ta fille qui ne dit rien.
Un prêtre a apporté un plateau d'argent qu'il a présenté à l'homme. Sur le plateau, une petite bouteille blanche et deux verres d'un même blanc laiteux.
Tais-toi, écoute.
Les verres sont à peine plus grands que des dés à coudre. La liqueur est sacrée. Katia et son fiancé se font face et elle ne dit rien pendant que le prêtre remplit le verre et le tend à l'homme qui le prend avant de l'offrir à Katia. Il faut qu'elle boive la première. Qu'elle boive de toute façon, qu'elle signe le consentement et l'abnégation que toute femme doit à son mari. Car elle doit l'aimer jusqu'à renoncer à tout. Il le faut, elle le sait, tout le monde attend. Katia fixe celui qui va devenir son mari et bientôt, lui. La peur le fait trembler. La sueur est glaciale sur sa peau. Et l'idée se fait plus forte qu'elle pourrait, que Katia pourrait. Est-ce qu'elle pourrait l'humilier et lui faire ça à lui ? Est-ce qu'elle pourrait désobéir à son père et l'humilier lui aussi ? Il se dit que c'est impossible. Et il attend encore. Des secondes tombent entre lui et le col de sa chemise, sous forme de gouttelettes poisseuses et d'idées si noires qu'il soit déjà contraint d'écraser la tête du père de Katia à coups de talons, c'est sa fille.
Et pourtant, une rumeur tout à coup, l'inquiétude, le soupçon, les regards sur le visage et la bouche de Katia, les prêtres, les souffles, les premières voix qui percent et les râles, l'attente et la stupeur qui se prolongent pour que le père de Katia court vers sa fille et lui arrache le verre des mains et le plaque contre sa bouche.
Et elle, mâchoire serrée, yeux fermés, elle résiste en se mordant la langue et à l'intérieur sa tête répète avec douleur, lentement, obstinée, va te faire foutre. Et elle crie d'un cri strident et long que personne n'entend. Parce que sa bouche est fermée comme un poing et le liquide coule et ça répand, glisse, éclabousse le menton, le cou. Elle se débat et détourne le visage avec des mouvements secs, nerveux, par un coup. Et lui la retient. Les autres regardent. Le fiancé observe d'un œil technique et froid comment le père va la mater.
Qu'elle soit dressée.
Calmée.
Soumise.
Et les prêtres aussi regardent. Et vous aussi vous regardez. Nous regardons. Nous tous. Et personne ne baisse les yeux lorsqu'il s'agit de voir Katia pleurer et se débattre et lutter.
C'était pourtant un beau mariage.
Quoi ?
Le mariage de sa fille.
Il y a quelques années, le 24 novembre 2000 très précisément, un fait divers d'une nature un peu étrange éclatait à Abbeville. Des parents d'élèves de 3e portaient plainte contre le professeur de français au motif qu'il diffusait des textes pornographiques. Arrêté par les gendarmes dans sa classe, mis en garde à vue, son domicile perquisitionné, l'enseignant recevait un soutien total de ses collègues et de sa hiérarchie. La raison initiale de cette plainte était que l'enseignant souhaitait faire étudier à sa classe le Grand Cahier, roman d'Akota Christophe, publié au Seuil en 1986. La polémique d'alors a soulevé un panorama simple jusqu'à la caricature. D'un côté, une bourgeoisie franchement réactionnaire, provoquée ou instrumentalisée par des membres locaux du Front National. De l'autre, des défenseurs d'enseignés qui, dans leur grande majorité, soutenaient le choix de ce livre parce qu'à leurs yeux, ce récit de temps de guerre apporté par deux enfants constituait un roman subversif, transgressif. Ce dernier parti faisait l'éloge de l'enseignant. Il saluait le choix pédagogique d'une œuvre vraie et forte, capable de montrer à la jeunesse les horreurs du monde sans rien leur en dissimuler. Au nombre de ces horreurs, des scènes sexuelles crues, notamment de zoophilie et de pédophilie, agies par des personnages hypocrites ou cyniques, dotés d'un certain pouvoir de domination et globalement abjects. Personne n'avait l'air de trouver cela triste, pour reprendre à Germain Visible l'adjectif de sa vidéo. À gauche, au contraire, on trouvait ça très drôle de penser que la jeunesse, elle, en avait vu d'autres et qu'elle en rigolait. C'était un signe qu'on en avait fini avec la morale bourgeoise, hypocrite et mensongère, telle qu'elle avait longtemps été véhiculée par l'école républicaine.
La licorne, elle s'en fiche. Elle suce la soie et souffle et respire dessus. Ça ne lui pose aucun problème. Les gouttes de rosée perlant des fils s'écoulent dans ses naseaux. Je caresse le museau glacé, en peignant les poils pour enlever la grosse toile d'araignée. Ça colle. C'est dégueulasse. Elle se penche et je peux voir son dos. Il est nacré. Les ailes, je les entends d'abord. J'entends se froisser toutes les feuilles au-dessus de moi. Un bruit de déchirure et de chuchotement, comme fait le vent lorsqu'il vient de loin. Comme tonton aussi, quand il me dit chut, tout doucement, en enlevant son t-shirt. la mère dont mamie a parlé. Je n'ai jamais vu la mère. La vraie. Je me redresse et je vois ses ailes remuer. Une armature brillante où s'attachent des toiles plus épaisses que celles des araignées. Elle craque. Je les vois s'ouvrir, craquer, se fermer, fractionner l'ombre et la lumière du bois à l'aube. C'est une aube qui n'a rien à voir avec l'aurore de l'autre côté. Celle qu'on voit de la maison et qui est si mauve que c'en est à gerber. C'est une aube de plus haut, de plus avant dans la nuit, dans laquelle tout le monde dort. Une aube précoce, noire et dorée. Tout le monde dort. Sauf tonton peut-être. Et mon ventre est scindé en je ne sais pas combien de morceaux. Je ne sais pas si j'ai mal, mais ça me déchire, ça me dépasse. Il n'y a pas de bruit, sauf le froissement ou les déchirures qui se répondent ou sont la même chose, le même son, le même souffle. La licorne frictionne encore sa corne à l'écorce du frêne où je me suis appuyée. Je passe ma main le long de la corne. Je lui demande. Ma belle, c'est quoi qui te démange? Elle met ses jarrets antérieurs à terre. Et je peux prendre les spirales à pleine main. Le maître nous a séparés en trois groupes.
Un pour chaque salle.
Et puis on change. La salle des vers à soie. La salle de la filature. Dévidage des cocons et filage. La salle des teintures. Avec plein de plantes tinctoriales.
Tinctoriales ?
J'ai appris ce mot par cœur.
J'adore.
Il paraît que certaines de ces teintures sont aussi utilisées dans l'alimentation et le maquillage.
En vrai, le verre à soie, c'est pas vraiment un verre, mais une chenille. La chenille du Bombyx mûri ou Bombyx du mûrier. Les autres n'écoutent qu'à moitié. Ils sont un peu dégoûtés et très distraits.
Moi ? Je regarde la larve avec envie.
Envie de quoi? Je ne sais pas.
Mais je me verrais bien me faire tisser des cocons dans les cheveux. Et maman traiterait de folle. Comme d'habitude. D'abord, il y a les œufs. Et 12 jours plus tard, la chenille sort. Elle est à peine visible. Toute menue, toute velue. Puis se transforme.
5 fois. Et en un mois, elle multiplie son poids par 10 000.
Mais ce qui me stupéfie, c'est qu'entre les transformations, la chenille cesse de se nourrir et de grandir. Elle s'enveloppe d'une nouvelle peau. Elle mue.
5 fois.
Moi, j'ai l'impression de muer tous les jours.
La cinquième fois, elle file le cocon.
Quatre jours, ça dure.
Je prendrai bien une larve dans mes mains et je la cacherai dans mes cheveux.
Jusqu'à la nymphe, puis la chrysalide.
Et j'aurai des papillons au-dessus de mes yeux, dans mon cou.
Des papillons blancs, partout. Le dévidage ne pouvait intervenir qu'après l'étouffement des chrysalides, emprisonnées dans leur cocon, par de très fortes températures.
Grâce au grès, la soie est tenace. La soie est un excellent isolant.
Les filles insistaient sur la suffocation. Les bêtes noyées brûlaient longtemps. Les filles suffoquaient avec elles.
La chaleur était épouvantable. L'odeur pestilentielle.
L'humidité permanente et la chaleur formaient un brouillard de vapeur oppressante en hiver, plus léger, mais plus puante encore en été.
L'odeur caractéristique de la filature venait de là, de cette insistance à faire crever, de la fermentation des restes de chrysalide dans les bassines vidées en fin de journée seulement.
Les filles portaient sur elles l'odeur des magnans morts. Elles portaient l'odeur de la décomposition des insectes domestiqués.
Charognes minuscules mais multipliées.
Des milliers de cadavres, de petites larves flottant dans les bassines. Cette odeur s'est encore aggravée par le sucre ajouté à l'eau chaude pour faciliter la dissolution partielle du grès.
Le sucre, humeur acide sécrétée par le papillon pour percer le cocon, était recueilli en écrasant la chrysalide.
Les ouvrières puaient la mort. Elles étaient des filles de mauvaise vie. Elles restaient debout de 4h du matin à 7h du soir dans une moiteur irrespirable qui noyait leurs rêves d'avenir et jusqu'au souvenir d'avoir rêvé une vie meilleure. En entrant là, une vie meilleure qu'à la ferme.
Pour certaines d'entre elles, cependant, les rêves étaient plus résistants que le gris. Dans les chambrées, des vies imaginaires collaient à leur petit sommeil.
Mais le manque d'aération, l'absence d'hygiène, la surpopulation des dortoirs et la nourriture insuffisante accueillaient le plus souvent la tuberculose et l'ennui.
Pas de collection, non. S'il te plaît, pas de cadavres. Ce que j'aime, c'est le mouvement et l'instant qui passe. Je n'aime les papillons qu'éphémères. Vivants.
Pas les papillons en boîte.
J'aime la mue des papillons.
Ne sont pas des boîtes où nous enfermons les papillons. Ils sont des cocons où s'alignent et s'affilent les chenilles. Et nos mots, nos phrases sont faits de soie vivante. Ils sont cet espace étroit dans lequel deux chenilles tissent chaque jour, chaque heure.
Elles tapissent les parois par la bouche de baisers de mots, de caresses, de corps à corps. Je passe ma main sur l'abdomen doux de la chenille.
Quand ce sera fini, qui pourrait dire si nous avons été amants ou jumeaux?
Le papillon sera peut-être monstrueux.
J'aime tellement ce texte, tissé de nos salives difformes, insensées et pourtant si pleines de sens.
Je cherche encore les mots pour définir le goût de ce passage de nos phrases, de ta bouche à la mienne, de la mienne à la tienne.
Il y a un goût de métal à cause du fer dans le sang,
mais pas seulement.
Je cherche. Embrasse-moi encore. Je sais pourquoi tu as pris mes pinces à cheveux pour des papillons noirs. C'est parce que tu me crois capable de faire naître des papillons dans les cheveux des petites filles. Parce que tu crois en moi.
J'ai lu que les flocons de neige ont des dizaines de formes répertoriées, mais surtout qu'il y a, en plus de l'eau et du froid, une chose indispensable à la formation de la plus pure et vierge des matières, et c'est une impureté. Chaque flocon éclos sur une particule en suspension dans l'air. Un brin d'étoupe, une poussière, la cendre d'un bûcher funéraire, une squame de cuir chevelu. N'importe quoi d'infime et d'impur que le vent charrie sans distinction ni embarras. C'est une belle philosophie. J'aurais passé 4 ans à Summerhill, de 15 à 19 ans. Je ne peux pas lui faire crédit de tout ce qui, n'importe où, émeut ou blesse ou bouleverse une fille à l'âge des métamorphoses. Pour le reste, on y jouissait d'une liberté jamais vue dans une école. Elle ne supprimait pas la cruauté entre nous, au contraire. Mais elle rendait au moins la sournoiserie sans objet. La honte aussi nous était inconnue. C'est beaucoup. Pourtant, ça restait une école, sans grille, sans serrure. Mais avec les liens de la confiance donnée et la menace assez énorme que fait peser la seule alternative possible, l'école à la baguette. Ainsi donc, un enclos dans lequel tout est permis, c'est-à-dire un zoo. Et par définition, il ne manquerait plus dans un zoo qu'on interdise aux animaux de faire la grimace, de danser, de copuler, de bouder dans leur coin. De bouder dans leur coin. Et moi ? Tandis que les libres enfants de Summerhill se caressaient les uns les autres, moi ? Je faisais l'amour avec des ouvriers de la Garrett & Sons. Ils sentaient le fioul et la graisse à vérin. Je crois. Je crois avoir triomphé de mon désir de maladie. Ce qui doit être à l'œuvre dans la métamorphose, c'est la joie pure, la joie pure. Or, j'étais comme morte, c'est bien cela. J'étais comme si je n'existais pas. On se persuade facilement que la joie est ailleurs et qu'elle est autrement. Il y a mille raisons, toujours, de douter de l'authenticité des joies de ses semblables. Et il n'y a pas de pire malheur que d'en douter toujours. Il se trouve là une blessure amère, dans le refus de se livrer aux réjouissances communes, à la liesse, au débordement naïf, et de s'y laisser emporter, dissoudre, oublier, oublier. Ce qui s'est fait jour en moi, comme un contrepoison, c'est le sens du rythme, ou plutôt, c'est l'emprise que le rythme peut avoir sur mon être entier. J'étais comme morte et soudain, j'y repense. Ce matin, dans le tram, un beau gars, la vingtaine, les pieds croisés sur une barre d'appui, fait sonner son crayon sur une bouteille de bière et fait ting, ting. En syncopé sur la grille à quatre temps de la machine, le heurt des roues de fer sur la jonction des rails. Ta 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 toum, 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 ta 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 toum. Et rythme du train, du tambour, de galère, du marteau, de forge et par-dessus le duende. On chante comme on l'entend, et à partir soudain trop tôt, soudain trop tard, en syncopé, on tord, on casse. On disjointe un peu la métronomie et on commence d'être vivant. Comme lorsque maman est morte. Et que je me suis jeté dans la grande ville. Avec l'espoir perdre, je retrouve une joie d'évader, des enthousiasmes de jeunes chats qui luttent avec les ombres, agressent les mirages. Jouir, jouir, bondir, s'évanouir, libérer hors de sa bouche. Un flot de paroles sans suite. Car le propre du langage est précisément dans ses suites et poursuites auxquelles il commande sans relâche. Les mots que je trace sur le papier, les mots que je trace sur le papier, du moins ne lit personne. La parole, ici, n'attend pas de réponse. Je presse le langage hors de ma tête, comme on le fait de la sanie qui envahit la plaie. Qui envahit la plaie. Mais c'est intarissable. Voilà un brave démolisseur qui fait le soir pour se raconter sa journée, pour se raconter sa journée. Le commentaire en pierre de ces démolitions. Pourtant, ce que j'écris, je ne le relis pas. Je ne le relis pas. C'est plutôt d'excavation qu'il s'agit et de dépose de gravats. Et de dépose de gravats. Et de dépose de gravats. Si je parviens à faire danser le langage, je charme le serpent. Si je parviens à faire danser le langage, je charme le serpent. Oh,
Le premier ouvre l'un des battants des grandes portes en plastique transparent avec des numéros dessus, en bleu, 9 et 10, issus de secours. Tu entends ? Tu comprends ça, toi ? Tu ne trouves pas ça drôle de lire « issus de secours » quand les gars soudain derrière lui se mettent à trois pour le pousser ? Allez, avance, avance. Et déjà à l'entrée des réserves, il voit des bouteilles de lait filmé directement sur une palette. Le film plastique brille. Il ne regarde pas longtemps. Il ne s'arrête pas et très vite, il y a les mains dans son dos. Ça devient des pichenettes, pas encore des claques. Avance. Et dans sa bouche, il n'y a pas encore de cri pour demander où on l'emmène. Avance. Pourquoi on l'emmène si loin ? Pas dans le local de sécurité, mais ailleurs, plus loin. Il en est sûr. Avance. Il devine quelque chose. C'est trop loin, trop isolé. On avance jusqu'à ce que la radio du magasin devienne un bruit de fond qui disparaît derrière les premiers mots qu'il gueule assez fort. Les seuls que sa poitrine peut enfin lâcher. Pourquoi on est ici ? Pourquoi si loin ? Il ne sait pas quand vient la première claque sur le visage, mais il sait que soudain, on ne peut plus avancer. Devant, il y a un mur de conserve. Il se retourne et esquive les premiers coups. Il essaie de dire « Ça suffit, je veux partir, lâchez-moi ». Il sait qu'ils vont lui casser la gueule parce qu'il le voit à la façon qu'ils ont de s'envoyer des coups d'œil entre eux pour se motiver. Ils s'amusent, ils font semblant de se mettre en colère et le retiennent. Des mains, des bras, par les épaules et une main le gifle qu'il essaie d'éviter. Mais le plus vieux se met en colère en le traitant de pédale et lance son poing. Le nez éclate et le sang coule jusque sur la lèvre. Un instant, il a peur de s'évanouir. Pas un mot ni un geste. Ça résonne dans sa tête comme le son d'une sirène qui sifflerait trop près et trop fort. Sur les cheveux, ses dents qui se chevauchent, c'est à peine le temps de rien parce que tout recommence très vite. Une autre claque et toujours des bras qui le bloquent. Il se débat mais ça ne dure pas. Quand il essaie de donner des coups de pied devant lui, sur les côtés, prenant appui sur les bras qui le retiennent pour jeter ses jambes devant lui, alors il le lâche et il tombe dans un grand bruit de souffle coupé. Mais même à ce moment-là, il se dit que tout va s'arrêter bientôt. Ça aurait dû finir à ce moment-là. Voilà qu'ils en finissent et que lui puisse repartir enfin. Ton frère, ton grand frère. Mais tu vois, ça n'a pas fini comme ça, non. Et c'est après les coups et la mort, après le silence entre eux, après que les quatre mecs sont restés figés comme attachés ou ligotés les uns aux autres par quelque chose de plus fort qu'eux qui tirent leur regard vers la dalle de béton. Là où il gît enroulé sur lui-même, les jambes recroquevillées, avec cette putain de position de fœtus qui n'arrive jamais quand ça va.
Imagine les milliers de personnes rassemblées en cercle là-bas, autour d'une pelouse d'un vert si étincelant qu'on pourrait la croire vernie au pinceau. chaque brin d'herbe, enluminé d'une substance mélangeant résine et essence de térébenthine ou de lavande, et qui, après évaporation du solvant, aurait formé ce film solide et transparent, comme un reflet argenté, comme un apprêt sur un coton neuf, un voile de cire. Et songe qu'à l'heure d'apparier les organes vivants de Simon Limbre, à l'heure de les répartir dans des corps malades, des milliers de poumons se gonflent ensemble là-bas. Des milliers de foies se gorgent de bière. Des milliers de reins filtrent à l'unisson les substances du corps. Des milliers de cœurs pompent dans l'atmosphère. Et soudain, elle est frappée de la fragmentation du monde, de la discontinuité absolue du réel sur ce périmètre. L'humanité pulvérisée en une divergence infinie des trajectoires. Une sensation d'angoisse qu'elle avait déjà éprouvée ce jour de mars 84, alors qu'elle était assise dans le bus 69 et se rendait dans une clinique du 19e arrondissement pour avorter. Moins de 6 mois après la naissance de sa fille qu'elle a élevée seule. La pluie ruisselait sur les vitres. Elle avait regardé un à un les visages des quelques passagers qui l'entouraient. Des visages que l'on croise dans les bus parisiens en milieu de matinée. Des visages aux yeux fuyants vers le lointain ou rivés à une consigne de sécurité contenue dans un pictogramme. Fixés sur le bouton d'appel, égarés à l'intérieur du pavillon d'une oreille humaine, des yeux qui s'évitaient entre eux. Vieille dame à cabas, jeune mère de famille avec enfant en kangourou, retraités en chemin vers la bibliothèque municipale pour la lecture de leur périodique quotidien. Chômeurs de longue durée, en costume cravate douteux, plongés dans leur journal, sans parvenir à le lire, sans que jaillisse sur la page la moindre étincelle de sens, mais accrochés au papier, comme pour se maintenir dans un monde où ils n'avaient pourtant plus de place, où ils ne trouveraient pour bientôt plus de quoi subsister. Des personnes, parfois situées à moins de 20 cm d'elle, et qui toutes ignoraient ce qu'elle allait faire. Cette décision qu'elle avait prise, et qui dans 2 heures serait irréversible. Des gens qui vivaient leur vie, et avec lesquels elle ne partageait rien, rien, hormis ce bus pris dans une giboulée, ces banquettes usagées et ces poignées de plastique poisseuse qui pendaient du plafond comme des cordes préparées pour se pendre. Rien, chacun sa vie, chacun les siennes, voilà. Elle avait senti que ses yeux se baignaient de larmes, avait serré plus fort la barre métallique pour ne pas tomber. Sans doute fit-elle, en cet instant, l'expérience de la solitude.
Mais cette nuit, Francesco.
Cette nuit infranchissable.
La Gauloise sans filtre que je fume jusqu'à me brûler les lèvres et les doigts qui la tiennent fermement pincés, écrasés. Pendant qu'à côté de moi, Jeff parle de cette histoire de la veille que je ne comprends pas très bien tant il hache son récit d'un rire mécanique, s'excusant de me parler d'une bague et de billets avec des mots incohérents. C'est un récit sans suite qu'il débite seulement pour justifier Tonino de ne pas me raccompagner et faire aussi que la situation soit plus simple d'être là, tous les deux, sans Tonino, sans toi non plus ni personne, Francesco.
Francesco, sans toi. Oui, tu entends, sans toi, Francesco. Je suis seule dans la rue, en pleine nuit, avec ce type si inquiet, on dirait, parce que moi aussi, je dois lui faire peur. C'est ce que je me dis. Je dois lui faire peur avec mon silence et ce regard buté. Mes yeux qui cherchent à comprendre et à retrouver ce qui doit être dans l'ordre des choses. Mais il n'y a pas d'ordre des choses. Pas de sens. Des choses, oui, il y en a. Mais elles sont en vrac et s'étalent devant moi avec la cruauté de leur indifférence. Et puis c'est tout. Et l'autre qui n'en finit pas d'essayer de brasser de l'air pour expliquer l'incompréhension de nous voir là, tous les deux. Cette voix qu'il a, Jeff.
Cette voix qui vibre, ces rires qui chevrotent dans sa gorge.
Et sa gêne de me faire cet aveu, quand j'imagine plutôt que la véritable gêne, c'est de devoir me raccompagner. Et de ne pas savoir comment faire avec ce silence. Et cette tension palpable entre nous, partout, dans l'air,
dans le ciel et la nuit.
Peut-être que je pourrais lui faire oublier. Si je lui parlais du printemps chez nous, chez moi, le printemps, je pourrais, il suffirait, Jeff, de te parler des glycines et des pluies lourdes qui soulève la poussière et écrase les corolles, les doigts de sorcière, les pétales des tulipes jaunes et rouges, et le soleil poudreux derrière la brume du ciel, le matin et l'herbe coupée, les cris des enfants derrière les ballons qui cognent contre les murs.
Francesco, dis, tu te souviens? Le bruit des klaxons, au moment où les voitures alignaient des bouchons monstrueux dans toute l'Italie. Le soir, pour que les filles et les garçons se parlent d'une voiture à l'autre, comme le soir où nous étions rencontrés. Toi, avec ton frère Gavino et ses copains militaires, leurs Ray-Bans sur les yeux en pleine nuit, tu te souviens de comment ça nous faisait rire? Gina, Giovanna et moi qui buvions du martini rouge dans la petite Austin que j'empruntais à l'oncle, Francesco.
Francesco, parle-moi. Mais Jeff me dit que peut-être nous serons perdus si nous ne faisons pas plus attention où nous marchons. Toujours à gauche, dit-il. Plus bas et plus à gauche. Et de fait, sans doute, nous sommes perdus. Parce qu'à l'aller, nous n'avions pas marché si longtemps ni si haut. La fatigue dans les jambes et ces images que nous ne connaissons pas de la ville, un boulevard que nous n'avons pas traversé. Mais peu importe, on voit son nom. C'est le boulevard du jardin botanique. On continue et puis bientôt des immeubles détruits, des intérieurs d'appartements où apparaissent des murs, avec leurs portes de salon et les papiers peints défraîchis, des carreaux de salle de bain. Et puis des néons près de la place où nous arrivons. Quelques hommes seuls. Et sur les palissades, il y a des fresques. Il y a des fresques et des messages. Et moi qui me moque d'être perdue. Puisque perdue, je le suis de toute façon. Francesco, de toute façon, comme c'est étrange maintenant.
T'imaginais que ce soir, j'étais dans un stade avec toi. Et qu'après, j'étais seule dans cet hôpital. Et puis, plus tard, dans la nuit, au milieu de tous ces gens, j'ai mal au ventre. Mes mains me font mal, mais il me semble que tout ça, c'est très loin. Trop loin, si vieux, si fatigué. Comme sont fatigués ici, sous les néons des bars, qui ferment et recrachent des clients qui marchent vite, avec les mains dans les poches, le regard un peu fuyant, des hommes seuls. Et des silhouettes qui attendent, alignées contre les murs. Des fumées de cigarettes sous les néons. Des vitrines et des lumières tamisées, comme on dit qu'il y en a dans les villes du Nord et à Amsterdam. Aussi des filles en lamé et en nylon, dans des vitrines où elles attendent, assises et langoureuses comme des sirènes, d'aller pêcher dans la rue les merlans aux yeux ronds, vaguement étonnés. Francesco.
Francesco. Est-il possible d'imaginer que ton corps, depuis tout à l'heure, n'a fait que plonger vers ce froid si froid, que bientôt le sang, lui, sera aussi lourd et friable que la roche ? Et les pores de ta peau, bientôt, les yeux plus jamais ouverts comme tu m'ouvrais tes bras lors de mes angoisses et mes peurs. Moi, toute seule ici, je repense à Gavino et à cette histoire qu'il nous avait racontée de la vieille dame du rez-de-chaussée dont il s'étonnait qu'elle ne donnait plus de nouvelles jusqu'à ce que des mouches apparaissent devant les volets que le vent avait entrouverts et qu'elle lui donne l'alarme. Et alors, ce risque d'un regard vers l'intérieur, cette odeur âcre avait été si forte, presque jusqu'à le faire défaillir, plus encore que le corps allongé sur le carrelage. Et les yeux de la vieille dame, avait-il raconté, c'était comme si ses yeux avaient coulé sur les joues. Et toi, Francesco ?
Non, ne pas imaginer tes yeux verts en liquide visqueux sur tes joues. Et cette odeur âcre autour de toi, Francesco. Est-ce que c'est possible d'imaginer que ta voix flotte aussi dans les airs, dans la couleur de soufre du pollen qui se répand et flotte dans les flaques, plus léger que l'eau, sur les carrosseries des voitures, comme des grains de sable venus d'Afrique, ce pollen et ta voix. Non! Comment veux-tu que je croie des choses pareilles? Si seulement je n'imaginais pas que tu as froid au dos à cause de cette plaque de fer trop froide où ils t'ont couché. Mais imaginez, pensez que pour toi plus rien ne vaut que le silence profond, profond, si profond que je tarde à te rejoindre. Et Jeff qui dit que cette fois nous nous sommes perdus pour de bon, qu'il faut redescendre.
Francesco, il faudrait plus d'oubli que je n'en suis capable, moi, avec cette fatigue et ce corps qui me fait mal, la respiration douloureuse, cette envie de fumer une nouvelle fois encore. Tant pis pour le mal au ventre et cette envie de vomir à cause de toutes ces cigarettes et des idées qui frappent dans ma tête. Avec le sang qui bouscule les veines et les artères, comment croire que tu ne peux pas, que tu ne pourras plus jamais ni rire, ni respirer, ni rien? Jamais plus ouvrir les yeux! C'est impossible à penser!
Le mot, jamais!
Mais ta voix! Ta voix!
Tu vas devenir ta voix!
Nous nous connaissons trop pour que tu me fasses le coup du silence! Et de la mort! Passons sérieusement.
mort sans éclat de rire. Du côté des gens morts depuis l'éternité pour l'éternité. Ce vieux mort suscite.
Alors non.
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 Tu ne me feras pas ça.
Tu ne peux pas me laisser.
Dis pas dans cette ville. Pas comme ça. Pas ici. Tu ne peux pas devenir aussi mystérieux et énigmatique.
Francesco. Tu ne peux pas me laisser.
Et moi attendre que tu reviennes.
Comme si tu n'allais pas revenir.
Puisque tu vas revenir.
Il le faut.
Que tu reviennes.
Il le faut.
Je veux que tu reviennes.
Et
que
tous les deux.
Francesco.
Je veux fumer. Je n'ai plus de cigarette. Je reconnais la rue, celle du restaurant d'où Tonino a surgi quand je suis arrivé. Et puis au loin, la façade de l'hôtel et les lettres vert de gris. Alors soudain, le sang tape si fort dans mes tempes que je dois les masser un peu et fermer les yeux et dire encore « Attends, 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 attends Jeff. Si tu veux, on va s'asseoir sur le trottoir ou devant l'entrée de la bijouterie en face du restaurant où nous étions. »
Le silence.
Le bruit des respirations. Les volutes presque blanches qui montent et se perdent. Se diluent avec des mots complètement fous qui s'évaporent en montant dans la tête. Dilués dans des images et des cris d'anglais grimaçant, ricanant devant moi. Et les bandanas, l'ombre sur la pelouse et les joueurs. Je vois la grande roue de l'autre côté du stade qui tourne lentement, très lourdement dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais son bruit craque.
Je l'entends.
C'est le bruit de l'autogire dans la salle d'eau avec son craquement particulier. Le carton agrafé contre une roue de bicyclette. Ou bien le bruit de la bille d'ivoire. Elle danse sur une roulette qui roule à toute allure dans un casino.
Noir, rouge, impair, perdu. Francesco, dans la nuit, perdu. Toi, tu me laisses seule. Avec ma jupe sale et mes genoux égratignés. Aux jambes. Alors qui pour me tenir la main dans cette impasse où ma vie n'a plus qu'à se blottir dans ces volutes qui montent et qui disparaissent au-dessus de ma tête pour ne pas avoir à rentrer à l'hôtel. Me voilà folle, c'est ça? J'entends la voix de Jeff. Il parle, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Oui, ce que j'aimerais, c'est ça. J'aimerais tant qu'il trouve des mots. Parce que c'est juste des mots qu'il faudrait. Des mots bien choisis. Simples, vrais, doux. Des mots qui me tiendraient les mains pour remplacer les hommes qui sont morts. Parce que moi, je refuse. Tu comprends? Je refuse d'accepter ton absence sans broncher. Et Jeff qui dit qu'il faut avancer. Que nous ne pouvons pas rester comme ça. Toute la nuit. Alors, nous relevons.
On voulait remercier Pierre. On voulait remercier Franck qui était aux Lumières. Voilà. Je voulais dire un petit mot aussi à Dominique parce qu'au début on n'avait pas de tract, enfin on en avait imprimé 10 et puis bon il a trouvé une solution super et tout le monde en a eu, il y avait les paroles de la chanson dessus si vous aviez bien suivi, même si vous avez bien suivi. Et voilà, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis et de nous avoir offert la liberté de faire tout ça, c'était super, voilà. On va remercier le master et donc il y avait Sylvie, ça fait plaisir. Ah mais c'est vrai. Enfin je pense qu'on a vécu, j'imagine, la grâce très différent parce qu'on est en petit comité, qu'on a fait beaucoup de répétitions, qu'on est très enfermé sur nous-mêmes, qu'il a fallu pas mal travailler tout ça. Mais c'était super d'offrir le lieu, enfin d'offrir la possibilité de faire tout ça, c'était incroyable. Voilà, merci beaucoup. Bon, et après, il nous reste les musiciens. Donc, il y avait John qui était à la basse. Hop, hop, hop! À la guitare, Loïc. Loïc à la guitare. On avait Adrien au sax. Voilà. Et pour la fin, donc, il a un pseudonyme, c'est DJ Trois Feuilles. Et sinon, c'est Flo. Voilà, merci beaucoup. C'est super et voilà. À la prochaine.